pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras.
Bonjour, l'océan qui recouvre les deux tiers de notre planète absorbe un quart des émissions de dioxyde de carbone que nous produisons avec nos activités polluantes. Malgré cela, il n'a toujours pas une place digne de ce nom dans les négociations internationales sur le climat. La mobilisation s'organise avec notamment la plateforme Océan et Climat qui sensibilise le monde entier sur l'urgence de s'en préoccuper. Mais les progrès sont trop lents. Nous en parlerons avec le biologiste Gilles Boeuf dans la deuxième partie de l'émission.
C'est pas du vent sur RFI.
Dans l'actualité de l'environnement, nous irons en Syrie où l'Union des organisations de secours et soins médicaux mise sur les énergies renouvelables pour garantir la durabilité de leurs installations sanitaires. Au Bénin où l'association Les Tresseurs de Cordes organise des camps de vacances pour sensibiliser les jeunes au changement climatique. Et en France pour saluer la naissance d'un petit nouveau en kiosque. Qu'est-ce qu'on fait ? Un magazine mensuel qui tente, je cite, d'apporter des réponses simples aux grands enjeux de notre époque. Son fondateur Alexandre Millet sera avec nous dans un instant.
Dans la partie est d'Alep, l'hôpital a dû fermer ses portes début mai. Tenu par les rebelles, la zone est régulièrement bombardée par l'armée syrienne. Depuis 2011, les structures sanitaires sont ciblées dans le conflit et le chaos rend leur reconstruction impossible.
En Syrie, après 6 ans de conflit, la majeure partie du réseau électrique a été détruite, rendant les hôpitaux dépendants des générateurs diesel. Les pénuries fréquentes de carburant ont mis en péril la vie des patients et ont provoqué une inflation des prix, un défi que l'Union des organisations de secours et soins médicaux, l'UOSSM, a dû affronter. Bonjour Oubaïda Almouti.
Bonjour.
Vous êtes cancérologue et vice-présidente de cette organisation que je vous laisse nous présenter en quelques mots.
C'est une union de plusieurs organisations médicales, donc effectivement nous sommes présents partout dans le monde aujourd'hui, en Europe, en Amérique, au Canada. L'idée bien sûr, ce sont des médecins d'origine syrienne ou des médecins étrangers qui avaient pour objectif soigner la population syrienne. C'est pour ça que nous aujourd'hui, nous soutenons plus d'une centaine d'hôpitaux et dispensaires sur tout le territoire syrien. Et nous avons aussi 17 centres médicaux sur tout le territoire syrien, du nord au sud, pour pouvoir offrir à la population vulnérable, à la population civile, un minimum d'offres médicales, parce que aujourd'hui, vous avez des zones complètes avec des millions d'habitants sans service médical, ils n'ont aucune couverture.
Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en 6 ans, les infrastructures sanitaires ont été largement détruites, même de manière quasi systématique en Syrie.
Pour des raisons que des fois j'ai du mal à comprendre personnellement, on a constaté d'une façon très claire que les hôpitaux, que le personnel de santé, les médecins ont été pris pour cible. Et c'est eux qu'on se bat pour eux, pour pouvoir continuer leur travail en toute liberté et en toute sécurité.
Et ces infrastructures sanitaires dépendent évidemment massivement de l'énergie. Alors l'énergie utilisée, c'est le diesel qui nourrit les générateurs. Et comme on l'entend dans ce reportage réalisé par vos équipes, la dépendance au diesel pose de vrais problèmes.
Au cours de l'année 2015, la seule route d'approvisionnement en diesel a été complètement coupée. De l'est d'Alep au nord de la Syrie, tout a été bloqué. Dans le nord, de nombreux hôpitaux, cliniques mobiles et centres de santé primaire apportent soins et secours médicaux aux populations.
Nous travaillons ici avec des couveuses. Nous en avons 6 au total dans ce département et l'électricité est primordiale pour leur fonctionnement. Même lorsque l'électricité n'est coupé que pour une demi-heure, cela engendre beaucoup de complications. Les enfants ont besoin d'être gardés à température constante en continu. Par conséquent, nous avons besoin d'électricité 24 heures sur 24.
Docteur Oubaïda Almouti, vous misez du coup sur les énergies renouvelables pour garantir l'indépendance et la durabilité de vos installations. C'est le projet Syria Solar. De quoi s'agit-il exactement ?
Comme vous avez bien signalé aujourd'hui, le réseau électrique qui était détruit dans une grande partie de la Syrie, raison pour laquelle on était obligé de trouver déjà dans un premier temps une autre énergie qui était le diesel, mais En même temps aussi, le diesel, c'est une solution, on va dire, par défaut, qui nous a posé beaucoup de problèmes à certains moments. Les routes, des fois, sont coupées, les prix sont importants. Bien sûr, avec la guerre, tout devient compliqué. Donc, même le diesel devient à certains moments une solution qu'il faut encore changer pour trouver notre solution. Et on a dit, la Syrie, il se trouve dans une zone géographique qui est quand même très ensoleillée. Et l'idée de vraiment profiter de l'énergie solaire était assez naturellement adoptée. On a vraiment voulu passer d'une économie de la guerre avec le diesel à une économie verte de la paix avec le soleil. C'était l'objectif essentiel pour pouvoir continuer à travailler. C'est dans ce sens-là que nous avons donc fait, nous avons créé le projet Serra Solar, qui était donc sur l'hôpital Bablawa dans un premier temps, l'hôpital pilote qui se trouve donc au nord de la Syrie. Pendant 2 mois, ils ont équipé cet hôpital des panneaux solaires. Donc sur effectivement la période sur l'été 2017, nous avons installé plus de 480 panneaux solaires capables de produire plus de 130 kW de courant avec des batteries. Ça nous a permis donc de réduire de façon considérable les coûts de diesel. On était donc aujourd'hui effectivement en économie à peu près de 30% de notre coût. Pour vous donner aussi un chiffre, on est à plus de 7000 litres de carburant économisés par mois, qui est vraiment énorme. Ce qui nous a permis d'élargir cette expérience pour d'autres hôpitaux. Actuellement, il y a donc 5 hôpitaux qui sont dans le projet. Ces hôpitaux, bien sûr, ont été choisis, sont des hôpitaux qui ont une activité chirurgicale, notamment orthopédique, ou une activité gynécologique. Donc, tous ces des salles d'accouchement et les hôpitaux mère-enfant. C'est un projet pour les 5 hôpitaux, c'est un projet effectivement qui a un coût, donc il coûte 1,3 million d'euros pour l'instant. Donc, ce coût, pour l'instant, est financé par nos partenaires qui nous permettront de poursuivre. Mais normalement, sur la durée, on va vraiment pouvoir économiser des sommes énormes parce que non seulement le coût, mais aussi les difficultés aujourd'hui d'obtenir du diesel ou du carburant en Syrie.
Et l'avantage, c'est que ce sont des installations durables. Merci beaucoup, Oubeida Almouti. Toutes les informations sur votre organisation et sur ce projet Syrie Solar sont sur le site www.uossm.fr. Merci beaucoup.
Je vous en prie, au revoir.
La 23e conférence des Nations Unies sur le climat où nous étions la semaine dernière est l'occasion de rencontrer des personnes engagées. Oba Abdourazak en fait partie, il est le coordonnateur de la logistique de l'association béninoise Les Tresseurs de Cordes qui organise des camps de vacances pour sensibiliser les enfants au développement durable.
Alors Les Tresseurs de Cordes, c'est une association créée par des Béninois résidents en France et qui milite, on va dire, sur les thématiques liées à la citoyenneté responsable. Nous concentrons nos actions sur les enfants, parce qu'on s'est dit que les enfants, c'est la relève, c'est l'avenir. Donc, on les forme sur tout ce qui est éco-citoyenneté et les thématiques liées à la protection de l'environnement et au réchauffement climatique.
Et donc, vous faites un camp de l'enfant citoyen chaque année, au mois d'août.
Au mois d'août,
pour les enfants de quel âge à quel âge ?
De 9 à 16 ans au Bénin.
Et donc, qu'est-ce que vous leur faites faire à ces enfants pendant ces séjours de à peu près 3 semaines ?
Alors, 3 semaines intenses. C'est-à-dire que pendant 3 semaines, les enfants se retrouvent sur des activités ludiques, de la formation. On les forme au leadership, on les forme à tout ce qui est protection de l'environnement, des comportements éco-citoyens, parce que c'est l'avenir de demain.
Alors, comme quoi, par exemple ?
Respecter le bien public, protéger l'environnement, ne pas jeter les sachets n'importe comment, et avoir un environnement propre.
Voilà. Et sur les changements climatiques, vous leur expliquez quoi ?
Sur les changements climatiques, c'est de vraiment les former sur le reboisement et comment il faut éviter les émissions de gaz à effet de serre.
Et vous en profitez pour tourner un film ?
Exactement. C'est chaque camp. À chaque camp, on a un film réalisé par les enfants. Et l'année dernière, c'était sur les sachets plastiques. Cette année, c'est sur la déforestation. C'est justement pour ça que nous sommes à la COP à Bonn aujourd'hui pour diffuser ce film-là et expliquer un peu les effets de la déforestation sur le réchauffement climatique.
Où sommes-nous, fils ? Toujours dans la forêt, père.
Eh oui, la plus grande et belle forêt incomparable à celle des autres royaumes. Cette merveille naturelle constitue, hélas, la cause qui attire la haine et la guerre à l'encontre de notre royaume. J'espère que tu feras honneur à tes ancêtres une fois sur le trône en protégeant cette forêt d'être rigueur. Ces plantes constituent le trésor et la fortune de notre royaume. Regarde ces plantes, elles ont la vertu de guérir plusieurs maladies.
Père, nous n'avons plus besoin de ces pratiques antiques. Le monde a bien évolué. Les Blancs ont tout découvert. Ils ont la solution à toutes les maladies. En ville, partout dans les pharmacies, se trouvent des médicaments. Sauf votre respect, père, je trouve inutile de raisonner ainsi. Ces arbres ne sont d'aucune utilité pour le royaume.
Alan Antonji, vous faites partie des acteurs de ce film. Vous avez participé au camp de l'enfant citoyen l'été dernier. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à cette aventure ?
Derrière ce camp, il y a une initiative vis-à-vis de l'environnement, une initiative qui permet aux jeunes de s'exprimer, de pouvoir agir dans le sens de l'environnement, de l'éco-citoyenneté. Et vu que c'est avec des enfants aussi, c'est un moyen de se retrouver, de pouvoir s'amuser tout en apprenant.
Et c'est important pour vous de vous sentir citoyen, protecteur de l'environnement ?
Oui, parce qu'aujourd'hui on est tous concernés, surtout les enfants, parce que aujourd'hui, les enfants sont les plus touchés par le réchauffement climatique parce que environ 690 millions d'enfants vivent dans les zones les plus touchées par les effets du réchauffement climatique.
Et qu'est-ce que ça a changé pour vous dans votre vie quotidienne ?
Déjà, vis-à-vis des petits gestes que j'aurais pu faire avant, des petits gestes comme jeter des sachets au premier endroit que j'aurais vu, des petits gestes comme économiser de l'eau, passer moins de temps sous la douche, ce genre de petits gestes qui peuvent vraiment être utiles pour l'environnement. Et vis-à-vis de la mentalité et du fait que maintenant je peux parler à plusieurs personnes de en quoi consiste le réchauffement climatique et qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir agir dans ce sens.
Vous arrivez à faire ça parce que nous on essaye de le faire régulièrement dans cette émission, c'est très compliqué. Alors qu'est-ce que vous dites à vos copains par exemple pour leur expliquer ce que c'est que le changement climatique ? Vous en parlez entre vous ?
Oui, c'est vrai que ça, le message passe pas forcément pour tout le monde, mais j'essaie de parler en disant qu'il faut faire que même les plus petits des gestes peuvent compter. Donc déjà en passant de ce genre de petits messages, ça prend un peu.
Donc depuis vos parents sont super sensibilisé au sujet.
Oui, tout à fait.
Et donc, c'est important pour vous d'avoir joué dans ce film ?
Oui, c'est important parce que ici, je suis le représentant des enfants citoyens. Donc, ce film est un peu l'attraction autour de laquelle nous montrons notre projet. Donc, c'est aussi important pour moi d'avoir joué dans ce film et de pouvoir parler aux gens à travers ce film.
Merci beaucoup.
De rien.
Aux multiples défis du 21e siècle, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une question que l'on se pose souvent dans C'est pas du vent et vous en avez fait le titre de votre mensuel, Alexandre Millet, bonjour.
Bonjour.
Alors, quelle est la ligne éditoriale de Qu'est-ce qu'on fait ou QQF pour les initiés ?
Eh bien, comme vous le disiez, effectivement, on est parti du constat qu'aujourd'hui, on se sent tous souvent assez impuissants face à l'avalanche de nouvelles, souvent très anxiogènes sur l'état du monde. Et on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait ? Et on a fait le constat qu'aujourd'hui, il n'existait pas énormément de sources d'informations qui nous permettent justement de trouver des réponses simples et actionnables. Et donc, on a voulu lancer Qu'est-ce qu'on fait, qui est un journal, on peut appeler ça du journalisme de solution, mais pas que. Parce que pour nous, c'était important justement d'arriver à aider les personnes à mieux comprendre ces sujets qui sont souvent très complexes et directement de leur apporter des réponses, des solutions, des alternatives.
Alors quand vous dites ces sujets qui sont complexes, il s'agit de quoi ? Quelle est la ligne éditoriale ?
Alors la ligne éditoriale, c'est des sujets environnementaux et sociaux. Nos derniers sujets, par exemple, sont sur l'obsolescence programmée, l'usage des pesticides, mais dans les jardins, c'est-à-dire pour des amateurs, pas dans l'agriculture. C'est peut-être aussi, on est en train de préparer un sujet justement sur la crise migratoire en Europe, et voilà, toujours avec ce principe, c'est-à-dire que tous nos sujets sont construits de la même façon. Une première partie, on présente les enjeux, les parties prenantes et ensuite les solutions.
Ce mois-ci, vous vous interrogez, demain, quel goût aura le vin ? C'est à l'occasion de la fête du Beaujolais, hein, qui est une fête très populaire en France chaque année à cette période. Et en fait, votre réponse, c'est le vin sera plus éthique, plus solidaire et surtout plus naturel.
Oui, aujourd'hui, on se rend compte, à travers les différents reportages qu'on a pu faire, qu'il y a quand même une tendance à sortir de la chimie et avoir à la fois une mécanisation un petit peu à outrance, à la fois dans les processus de vinification et de culture de la vigne, et un retour aussi à des pratiques agricoles ancestrales. C'est ça ce qu'on a trouvé assez intéressant, effectivement, dans ces différentes investigations qu'on a pu faire, c'est qu'il n'y a pas de vision manichéenne, en fait. Le progrès est toujours là, mais il prend une autre forme, et effectivement, on s'éloigne de la chimie pour aller plus vers la technologie, la robotisation, voilà.
Alors que ce soit dans la culture des vignes, ou que ce soit après, dans la vinification. C'est-à-dire quand on parle de vin nature, par exemple, vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire ?
Alors, les vins nature, ça veut dire qu'on n'autorise aucun intrant, c'est-à-dire aucun pesticide ou aucune levure chimique qu'on va venir ajouter comme adjuvant justement à des processus de vinification. Donc on laisse vraiment la fermentation naturelle du vin se faire, ce qui fait qu'on a un vin effectivement naturel, mais beaucoup moins stable et donc avec une richesse de goût qui peut quelquefois être surprenante aussi.
Mais c'est vrai que pour en avoir goûté, c'est très particulier le vin nature par rapport au vin que l'on a l'habitude de boire. Alors c'est très branché hein, de boire des vins nature à Paris, mais ça reste, ou dans d'autres villes du monde, hein, mais ça reste une petite niche par rapport à l'ensemble des vins fabriqués dans le monde.
Oui, aujourd'hui, effectivement, la part de production des vins bio, naturels, biodynamiques ne représente que 2 à 3 % en tout cas dans la production française. Donc ça reste effectivement extrêmement marginal, mais effectivement, on voit qu'il y a quand même un mouvement de fond avec un vrai intérêt en tout cas pour ces nouveaux vins. Même si après, hier, je dînais dans un restaurant qui servait justement des vins nature et qui... On se rend compte qu'il y a des problèmes de logistique aussi quand même, parce que là, ils avaient mal entreposé leur vin. Et au fait, le vin avait tourné directement. Donc, voilà,
c'est l'un des risques des vins nature.
Oui, mais c'est surtout qu'il y a du coup un processus quand même d'adaptation aussi, à la fois dans les façons de le conserver et de le consommer, qui vont prendre un petit peu de temps. Ouais.
Et on se rend compte, en lisant qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci, que les vins français ont un peu du plomb dans l'aile hein, quand même.
Aujourd'hui, le vin français est un vin qui bénéficie quand même toujours d'une certaine renommée, d'une certaine aura internationale, surtout dans le marché chinois. Mais on se rend compte quand même que, comme la culture du vin se développe aussi dans ces pays, il commence à y avoir une exigence qui n'existait pas avant. Et de plus en plus est perçue, je pense, une forme de décalage entre le prix et l'image du vin français et la qualité réelle du produit.
Parce que le vin français reste cher.
Parce que le vin français reste très cher et la qualité n'est pas toujours forcément au rendez-vous.
Donc qu'est-ce qu'on fait ce mois-ci ? On se met à boire du vin naturel. C'est vraiment ça l'idée, c'est de montrer les tendances, les nouvelles façons de consommer, les nouvelles façons de vivre.
Exactement. Donc l'idée c'est toujours la même, c'est qu'on présente un certain nombre de conseils et d'informations pratiques pour s'y retrouver. Et on fait par exemple un top 5 des régions phares des vins sains avec une sélection de vins. On présente un certain nombre d'applis qui existent aujourd'hui qui permettent de choisir plus facilement ces vins et de les acheter où qu'on soit en France. Et aussi, on donne des guides, enfin, on a fait un petit guide pour décrypter les étiquettes et bien comprendre ce qu'il y a à l'intérieur de notre vin.
Et le mois prochain ?
Alors, le mois prochain, ça va être sur les cadeaux de Noël. Voilà.
Et pas simple de faire des cadeaux éthiques, solidaires, pas trop polluants, tout ça, faudra y penser. Merci beaucoup, Alexandre Millet.
Merci à vous.
Restez sur RFI dans quelques minutes, juste après le flash d'info. Nous parlerons du rôle essentiel que joue l'océan dans la régulation du climat avec le biologiste Gilles Boeuf. A tout de suite.